Voilà, bonsoir. Nous allons commencer à aborder le thème du synode qui vient de se terminer dimanche passé, enjeux et perspectives. Et j'ai introduit notre réflexion par une petite phrase de l'évangile de selon Saint Jean. Il y eut le troisième jour, il y eut des noces à Cana. Commencer par une introduction en vous disant tout d'abord que ce que vous allez entendre n'est qu'une brève introduction. En une heure, il est absolument impossible de tout dire. Et donc mon objectif, c'est que vous soyez frustrés en sortant de cette salle et que vous ayez envie par vous-même de rechercher, d'abord quand le texte paraîtra en français, je l'ai travaillé en italien, ensuite, que aussi l'objectif, c'est de vous donner quelques clés de lecture, d'accord? Alors, vous voyez trois grandes parties. D'abord, nous sommes dans l'introduction. Après l'introduction, je vais commencer par parler du processus synodal. Pour ceux qui aiment les chiffres, ils seront gâtés. Donc, c'est assez factuel, hein, d'ordre descriptif. Ensuite, de façon très factuelle et descriptive aussi, je ferai un rapide survol du document, très rapide. Et enfin, troisièmement, je vous proposerai 5 points de lecture, 5 thèmes que j'ai choisis, non pas arbitrairement, mais en fonction de leur importance. Et là, je donnerai une lecture où je m'engage personnellement. D'accord ? Le thème de la famille, nous sommes toujours en introduction, le thème de la famille est un thème qui nous touche tous de près, puisqu'il met en jeu des liens très forts et fondamentaux pour notre identité. C'est une réalité qui est tellement belle qu'elle est susceptible d'être extrêmement blessée. Donc c'est un sujet qui est délicat. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Dès que nous rentrons sur des thèmes relatifs à la famille... Comme ça? Encore plus haut. D'accord. Comme ça, c'est mieux. Voilà, donc avec la famille, nous rentrons dans toujours des questions de dentelle, si vous voulez. C'est extrêmement délicat. Et le souci du pape François est de faire un état des lieux réaliste de la pastorale familiale. Qu'est-ce que les gens vivent? C'est vraiment sa question. Qu'est-ce que les gens vivent? Il veut rejoindre les personnes dans ce qu'ils vivent et leur permettre d'avancer avec la spiritualité des petits pas qui le caractérisent. Prendre les gens où ils en sont. C'est pour ça qu'ils nous touchent tellement. Certains journalistes, et même parfois évêques, ont tendance à dire « Ah, enfin !» L'Église se transforme complètement, elle devient pastorale depuis toujours. Depuis 2000 ans, elle est pastorale, d'accord ? Enfin, l'Église est entrée dans l'ère de la miséricorde. Depuis toujours, l'Église est dans la miséricorde. Regardez, Saint-Pierre, à la fin de Saint-Jean, de l'évangile de Saint-Jean, il reçoit sa mission à l'intérieur du triple Pierre-Même-Tu, un triple pardon. Donc, soyons critiques par rapport aux présentations qui sont dualistes et qui opposent différentes perspectives. Or, on peut les distinguer, et c'est clair que l'accent du pape François est clairement pastoral, clairement. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de nouveau. Il y a un ami qui me disait, en fait, le pape François dit ce qu'on a toujours dit, mais il le dit de façon tellement simple que ça touche les gens et qu'on a l'impression que c'est tout nouveau. D'accord ? Voilà. En fait, dans son cœur de pasteur, il y a un grand désir que la lumière de l'Évangile puisse rejoindre tout le monde, à commencer par les plus pauvres, les plus blessés de la vie. Il ne cesse de répéter, notre Église doit être exclusive, ne doit pas être exclusive, mais inclusive. Elle doit assumer, sans entrave, une condition d'hôpital de campagne. C'est utile à l'annonce de la miséricorde de Dieu. Vous avez entendu cela, hein ? Un hôpital de campagne pendant la guerre accueille les soldats des deux camps qui qui ne pose pas des diagnostics trop affinés, il est en train doit arrêter les hémorragies, afin que d'autres puissent ensuite établir des diagnostics. Donc, il veut développer une pastorale des premiers soins. C'est également le souhait exprimé par le synode des évêques sur l'évangélisation à la fin du pontificat de Benoît XVI. Encore une fois, les journalistes aiment bien, c'est de bon ton, hein, il ne faut pas leur en vouloir, opposer Benoît XVI et le pape François. C'est vrai qu'ils ont des approches assez différentes, qu'ils sont des personnes très différentes, mais fondamentalement, ils sont en profonde communion, hein, profond lien. Le pape a imaginé un itinéraire de travail avec des étapes. C'est le sens du mot odos en grec. Odos. Syn, odos. Syn, ensemble. Il y a sympathie, on souffre avec. Syn, le syn, c'est le avec. Et odos, c'est chemin. Donc, faire chemin ensemble, de mûrir, d'opérer un discernement spirituel et pastoral, tel qu'il avait été déjà ébauché, dessiné par l'exhortation Evangelii Gaudium et plus radicalement par le Concile Gaudium dans sa constitution Gaudium et Spes. Dans une dynamique de collégialité à l'intérieur d'une culture qu'il veut de la rencontre et du dialogue. Donc, ce soir, je vous propose de rentrer un petit peu dans ce chemin en trois grands moments, comme je viens de le dire au début. Un, description de ce processus, en insistant sur la dernière session qui vient de se clôturer. Deuxièmement, rapide présentation du document final. Enfin, l'analyse de quelques points. Tout d'abord, le processus synodal en 6 étapes. J'ai discerné personnellement 6 étapes. Le 7e étant réservé au dimanche, c'est-à-dire le repos. Tout d'abord, première étape, la préparation de la première session du synode. Le 18 octobre 2013, le Saint-Siège envoie aux conférences épiscopales un document préparatoire, les lineamenta, comme on dit, qui est un processus, une procédure sans précédent, puisque toutes les paroisses du monde sont sollicitées pour répondre à 39 questions. Et peut-être que vous-même, vous avez pris votre plume ou votre ordinateur pour répondre à l'une ou l'autre de ces questions. Les réponses ont été synthétisées dans les différents lieux diocèses et envoyées à Rome. Donc, c'est quand même une étape importante. C'est la première fois que l'on procède ainsi. C'est pour ça que je voudrais saluer et montrer la consistance de cette étape. Deuxièmement, il y a eu en février 2014 un consistoire de cardinaux. Cardinaux, ce sont les conseillers spéciaux du pape. Ce ne sont pas des super évêques, ce sont simplement des conseillers particuliers, si vous voulez. La troisième étape, oui, ça va assez vite, la première session du synode du 5 au 19 octobre 2014, durant seulement 2 semaines. Une assemblée d'évêques, pères synodaux, accompagnée d'experts, d'auditeurs et de délégués fraternels, pas nécessairement catholique. L'objectif consistait à faire un status questionis, recueillir les témoignages et les propositions des évêques. Cette première session du synode s'est clôturée par la béatification de Paul VI. Paul VI, le pape avec Jean XXIII du Concile Vatican II et le rédacteur de l'encyclique Humanae Vitae en 1968. Et suite à cette première grand rassemblement des évêques, une relatio synodi a été publié avec trois grandes parties. Voilà déjà pour notre troisième partie. Ne vous inquiétez pas, la sixième, ça va être beaucoup plus long. Enfin, la cinquième va être plus long. Donc, quatrième partie, qui fait vraiment intégralement, fait membre, ça fait corps avec l'ensemble du synode, c'est la préparation de la seconde session du synode. Sur la base de cette relatio synodi, 46 questions ont été envoyées. Et le pape a appelé à vivre une année, je cite, pour mûrir avec un vrai discernement spirituel les idées proposées et de trouver des solutions concrètes aux nombreuses difficultés et innombrables défis que les familles doivent affronter. Il s'agit d'une citation du Saint-Père dans son discours de conclusion du synode le 18 octobre 2014. Un des mots importants, c'est trouver des solutions concrètes. Et on sent que l'ensemble de la préoccupation de ce synode était de trouver des solutions concrètes. Le résultat de cette consultation, de concert avec la Relatio Synodi, a constitué la matière pour l'Instrumentum Laboris du synode de 2015. Et c'est la cinquième étape. La seconde session du synode, qui a duré 3 semaines, du 4 au 25 octobre 2015. Oui, c'est vraiment tout chaud. Des chiffres, pour ceux qui aiment les chiffres. Ne notez pas tout, hein, mais... 270, comme ça je peux aller plus vite, 270 pères synodaux, parmi lesquels 42 du fait de leur mission, notamment à la curie romaine, et 183 élus par les conférences épiscopales. C'est pour ça qu'on parle de synode ordinaire, à la différence du synode précédent, qui était un synode extraordinaire, où venaient les présidents des conférences épiscopales. 45 évêques sont venus de nommés par le Saint-Père. Et pour la Belgique, il y a eu le cardinal Daniels et Mgr Van Loo. Dans ces évêques, 54 viennent d'Afrique, 64 d'Amérique, des deux Amériques, comme on dit, 36 d'Asie, 107 d'Europe et 9 d'Océanie. Il y a eu 24 experts et collaborateurs du secrétariat spécial, 51 auditeurs et auditrices, dont 18 conjoints, parents et chefs de famille, 14 délégués fraternels d'autres confessions chrétiennes. Donc, en tout, si j'ai bien compté, 359 partisans de la famille, une réflexion pour la famille, avec... autour du Saint-Père. Notons une petite remarque que l'ensemble des participants a été renouvelé par rapport à la session précédente. Donc ce n'étaient pas les mêmes têtes, sauf ceux qui viennent en fonction de leur mission, de leur tâche à la curie. Mis à part aussi quelques présidents de conférences épiscopales qui ont été, de ce point de vue-là, élus par leur père. Ils ne venaient pas en tant que président de la conférence épiscopale, mais en tant qu'ils ont été élus par les évêques de leur pays. Une commission de 10 personnes a été mise en place pour superviser les travaux des 3 semaines et assurer le bon déroulement. 3 membres, du fait de leur rôle dans l'Assemblée, le rapporteur général, le cardinal Peter Erdo, le secrétaire général, Balisseri, et le secrétaire spécial. 7 membres représentant les 5 continents. Comment est-ce qu'on compte ? Il y en a 2 qui viennent de l'Amérique du Nord et du Sud. Un religieux. Bon, si j'ai bon souvenir, c'était le général des Jésuites, le père Nicolas. Alors, le point important à bien noter, c'est le rôle majeur qu'a joué l'instrumentum laboris, l'instrument de travail, qui était en quelque sorte le point de référence continuel, et qui a été étudié tantôt en séance générale, il y en a eu 18, tantôt en séance de carrefour linguistique. Il y a eu 13 séances en carrefour linguistique. Il y avait 13 groupes aussi, 4 en anglais, 3 en français, 3 en espagnol, 2 en italien et 1 qui a eu un poids majeur en allemand. Alors je voudrais m'arrêter, toujours dans la description de cette étape, sur le rôle des groupes linguistiques. C'était une volonté de réduire les séances générales pour pouvoir vraiment travailler en groupe plus restreint. En fait, il est double. Ils ont élaboré ensemble 3 fois un rapport au terme de chacune des 3 semaines sur la première d'abord partie de l'instrumentum laboris, ensuite sur la deuxième partie, ensuite sur la troisième partie. Donc, la première semaine, on a discuté de la première partie, seconde semaine, deuxième partie, de l'instrumentum laboris, troisième semaine, troisième partie. Au terme de chacune de ces parties, donc ils ont donné un rapport qui ont été votés par les membres des carrefours, sauf les auditeurs, et présentés en Assemblée Générale du Synode, et publiés sur le site du Vatican dans les langues originales. Il fallait un large consensus pour que ce document soit valide, à savoir 2/3 des voix. Donc ça c'est une première chose. Vous pouvez y avoir accès sans problème avec Internet. Les pères synodaux ont aussi proposé un certain nombre de modifications dans chacune de ces 3 parties du document de travail, qui ont été aussi élaborées ensemble, votées aux 2/3, remises à la commission de rédaction du document final et leur expert. Il y a eu un certain va-et-vient et nous avons abouti au samedi dernier au vote paragraphe par paragraphe dans l'après-midi pour être ensuite remis au Saint-Père. Le synode s'est conclu dimanche matin, donc 25 octobre, par la messe présidée par le pape à Saint-Pierre. Je voudrais noter 2 événements. Une cérémonie ouverte à tous de commémoration de l'institution du synode en 1965 par Paul VI. J'y reviendrai. 3h30 dans la salle Paul VI. C'est un point significatif. Et deuxièmement, vous l'avez peut-être suivi, la canonisation des époux Martin, Louis, horloger de son état, et Zélie, dentellière, parents de Thérèse de Lisieux et de ses 4 sœurs. En même temps qu'un prêtre diocésain italien et qu'une religieuse espagnole. Je ne sais pas si ces canonisations ont été pensées ensemble, mais personnellement je trouve qu'il y a une immense convenance de canoniser à la fois des gens mariés, des laïcs, un prêtre et une religieuse, une sorte de complémentarité des états de vie. Je ne sais pas si ça a été voulu, mais je trouve qu'il y a un aspect prophétique dans cette façon de procéder. Un autre élément que je ne vais pas développer, mais une nouveauté par rapport au synode précédent, c'est le rapport avec la presse, qui était extrêmement libre. Des salles de presse qui étaient installées un peu partout, des communiqués fréquents, journaliers, etc. etc. Il y a eu vraiment un souci de, j'allais presque dire de transparence, je n'aime pas trop ce mot, un souci de vraiment communiquer continuellement avec la presse. Donc ça c'est la 5e étape, et puis la 6e étape, en principe, vraisemblablement, le Saint-Père va publier une exhortation apostolique pour aboutir à une, sur base de ce rapport final, pour aboutir à, après, il faudra se retrousser les manches et y aller, d'accord ? Voilà, une rapide description. Maintenant, un rapide survol du document final, qui a comme titre « La vocation et la mission de la famille ». La vocation et la mission de la famille. Vous voyez que l'accent est mis sur l'avant, hein, vocation, vers quoi, hein, la mission, vers quoi. Donc c'est moins une réflexion sur l'origine, on est là dans un dynamisme de finalité. Dans l'Église et dans le monde contemporain. Trois grandes parties. La première partie est intitulée « L'Église à l'écoute de la famille ». L'Église, deuxième grande partie, dans le plan de Dieu. Et la troisième grande partie, la mission de la famille. Vous voyez, on écoute la famille. En deuxième moment, il y a un moment qui est plus, disons, doctrinal, la famille dans le plan de Dieu. Et un troisième moment, alors là, c'est on y va, d'accord ? La façon de mettre en œuvre, en application, ce qui a été écouté et réfléchi à la lumière des défis aujourd'hui. Dans la première partie, je cite rapidement quelques éléments. Hein. Le contexte socio-culturel de la famille, le contexte religieux, le changement anthropologique, c'est un point sur lequel je vais revenir, les contradictions culturelles, la famille et le contexte socio-économique, la famille comme ressource de la société, politique en faveur de la famille, solitude et précarité, économie et équité, pauvreté et exclusion, écologie et famille. Puis, toujours dans la première partie, il y a une étude des différents états de vie, enfin des différentes saisons de la vie, le troisième âge, le veuvage, l'ultime saison de la vie, les personnes avec des besoins spéciaux, les personnes non mariées, ah tiens, intéressant ça, les personnes non mariées, c'est quelque chose qui mérite d'être travaillé, les migrants, les réfugiés, les persécutés, quelques défis particuliers, les enfants, la femme, l'homme, les jeunes. Et c'est vaste, ne fût-ce que pour le premier point. Je dis ça parce que, on verra ça tout à l'heure, mais il y a une tendance à réduire l'extraordinaire richesse de ce synode à l'un ou l'autre point qui nous intéresse ou qui intéresse les médias occidentaux, si vous voulez. Donc, famille, affectivité et vie, la vie affective, la formation au don de soi, fragilité et immaturité, technique et procréation humaine. Voilà, ça c'est pour ne fût-ce que la première partie. C'est bon de l'entendre, hein, ça. La deuxième partie, la famille dans le plan de Dieu. Tout d'abord, la pédagogie divine, l'icône de la Trinité dans la famille. Non pas comment mettre son icône de la Sainte Trinité dans votre famille, mais la famille comme étant... C'est pas simple à penser au niveau théologique, hein, puisqu'on ne peut pas dire que le Père, c'est le Père, que l'épouse, c'est le Fils, et puis que le Saint-Esprit, c'est l'enfant. Enfin, je veux dire, c'est une analogie pas simple à penser. Donc, voilà. Il faut le penser comme communion d'amour, hein, voilà, communion féconde. La famille dans l'Écriture, Jésus et la famille, ça c'est dans l'histoire donc plutôt du salut, ensuite dans le magistère de l'Église, avec l'enseignement de Vatican II, de Paul VI, de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Et aussi, il y a un chapitre que je n'ai pas encore lu sur François. Alors, en effet, les interventions du pape au synode de 2014 et à ce synode, ses 30 catéchèses sur la famille, ses enseignements à Fidèle et Fille et au cours de ses voyages constituent déjà un corpus important sur la famille. Toujours donc après avoir plutôt vu dans l'Écriture et dans la théologie fondamentale, dogmatique plutôt, ensuite dans le magistère, ensuite dans la doctrine chrétienne, mariage dans l'ordre de la création et plénitude sacramentelle, indissolubilité et fécondité de l'union des époux, les biens de la famille, vérité et beauté de la famille, le lien intime entre Église et famille, la grâce de la conversion et de l'accomplissement, la miséricorde dans le cœur de la révélation. D'accord ? C'est pour la deuxième partie qui est plus doctrinale, hein, au sens large. Ensuite, la troisième partie traite donc de la mission de la famille. J'ai presque fini ce chapitre. Avec la préparation au mariage, je vais y revenir, ça me semble un point très précieux. La célébration nuptiale, les premières années de la vie familiale, point aussi fort important. Comment accompagner les premières années. La formation des prêtres et des autres opérateurs pastoraux. Et puis, toujours dans cette dynamique de la mission, la transmission de la vie, la responsabilité dans la génération, la valeur de la vie dans toutes ses phases, l'adoption et la filiation, l'éducation des enfants. Et puis, simplement, dans le chapitre 3 de cette troisième partie, situation complexe, accompagnement dans diverses situations, discernement et intégration. Et puis ensuite, dans le chapitre final, toujours de la troisième partie, famille et évangélisation, la spiritualité familiale, la famille comme sujet de la pastorale. Intéressant, c'était une idée qui est venue du synode sur l'évangélisation de Benoît XVI. La famille n'est pas simplement l'objet de l'évangélisation, mais elle est aussi le sujet de l'évangélisation. Ça veut dire qu'elle n'est pas simplement celle vers qui l'évangélisation se tourne, mais elle est active dans l'évangélisation des autres familles et du monde qui l'entoure. D'accord ? Le rapport avec les cultures et les institutions, l'ouverture à la mission. Après une conclusion, une belle prière est proposée.
Toutes ces questions-là, c'était traité en combien de temps ?
2 ans. Mais évidemment, on ne partait pas de rien. On part de 2000 ans d'histoire.
2 ans.
Et puis il y a l'extraordinaire exhortation apostolique du synode qui s'est déroulé 30 ans plus tôt, même plus en 1981, donc 35 ans plus tôt, Familiaris Consortio. Là, vous avez un texte magnifique et qui aborde déjà beaucoup de ces questions-là, d'accord, mais qui l'aborde dans un contexte il y a 30 ans. Et vu l'évolution rapide de beaucoup de choses, c'est d'ailleurs intéressant. J'espère qu'il va y avoir des thèses de doctorat là-dessus dans le futur, hein, mais de montrer le lien entre ces deux documents. Dans ces documents est annoncé déjà ce qui est observé aujourd'hui. Je pense que c'est une des clés des Familiaris Consortio, pour moi, c'est un avis personnel, est une clé de lecture aussi et d'interrogation du synode qui vient de se terminer. Familiaris Consortio étant riche d'une anthropologie théologique qui n'est pas présente volontairement, j'y reviendrai, pas présente de la même façon dans le synode actuel. Alors, je propose maintenant, après ce rapide survol, 5 points d'analyse, en espérant arriver au 5e, parce que c'est ce qui intéresse beaucoup l'opinion belge. En tout cas, quand j'ai lu après les comptes rendus de la Libre Belgique, du Soir, etc., c'était surtout le 5e point qui était important. Premier point que je voudrais aborder, qui me semble capital, c'est celui de la méthode. Dans le mot méthode, vous entendez de nouveau le mot odos, méthodos, odos en grec. Et méthode, c'est le chemin pour atteindre un but, si vous voulez, étymologiquement. Donc, c'est donc très proche du mot synode, hein, synodos, chemin ensemble. La question est donc celle-ci. Quelle méthode a-t-elle été choisie pour faire un chemin ensemble. C'est pour cette raison que dès le début, il y a eu des discussions au niveau méthodologique. Comme dans tout chemin, la méthodologie n'est pas neutre, comme dans toute discipline. Elle peut favoriser ou défavoriser l'expression de la collégialité effective et affective, comme le dit Vatican II. Benoît XVI avait déjà fait des pas pour améliorer cette collégialité et favoriser un vrai débat entre les membres du synode. Le pape François est allé plus loin. Il a choisi une méthodologie encore beaucoup plus synodale, comme le démontrent ces 6 étapes dont je vous ai parlé. Il s'agit, en effet, le synode, d'une ancienne institution dans l'Église qu'on avait un peu perdue, qui avait été remise à l'ordre du jour par Paul VI il y a juste 50 ans à la suite de Vatican II. Vatican II qui est un grand concile ecclésiologique qui traite de l'Église, du mystère de l'Église. Entre autres, mais voilà. Paul VI désirait en effet, d'une part, que l'expérience positive du concile continue. Quand on entend les anciens, quand j'étais au Collège Belge, il y a encore eu des gens qui ont participé au concile, ils sont venus, des prêtres, qui sont venus nous parler un petit peu de leur expérience, c'était vraiment une sacrée histoire. Bon. D'autre part, il espérait donner, Paul VI, une expression plus permanente à la collégialité des évêques. Alors, il ne faut pas confondre le synode universel, tel qu'il est passé ici, comme les synodes plus régionaux, comme il y a eu les synodes pour l'Afrique, les synodes pour etc. Donc, si vous voulez, et c'est ça le point qu'il faut comprendre, le synode découle, en fait, de la nature profonde de l'Église, qui est une nature de communion. Un des points mis en lumière de façon extraordinaire par Vatican II, c'est le mystère de l'Église comme communion. Eh bien, le synode, ben, pas n'importe quelle communion, une communion ordonnée. C'est pas un chaos, mais une communion ordonnée. Le synode en est, si vous voulez, en fait, cette façon de procéder coïncide avec la nature profonde de ce qu'est l'Église, de son mystère, vous voyez. Donc, dans un synode, il n'y a pas simplement l'aspect intellectuel, je n'aurai pas beaucoup de temps de développer cela, mais il y a l'aspect de rencontre des gens. Il y a l'aspect aussi de prière qui est important. C'était ponctué de célébrations. Donc, si vous voulez, la méthode n'est pas extrinsèque à la nature même de l'Église. Vous comprenez ce point? Quand on le sait, ça permet de mieux comprendre beaucoup de choses. Et à un point tel qu'il y a un évêque qui disait, mais finalement, ce synode est plus un synode sur l'Église que sur la famille. Ou de faire Église ensemble, c'était son expression. Que sur la... C'est intéressant comme analyse. Bien sûr, on a traité la famille, mais la manière de traiter était importante. Cependant, le synode n'est pas un concile, c'est un point important à bien voir, parce qu'il n'a aucun pouvoir de décision. Aucun pouvoir de décision. Ce n'est pas un petit concile. C'est un organe, un instrument pour conseiller le pape dans ce rôle de pasteur de l'Église. Le pape peut faire ce qu'il veut. Même s'il le veut, il peut donner certainement un pouvoir délibératif au synode, mais comme tel, oui, c'est la nature même de l'Église qui dit cela. Alors, justement, quelle était cette attitude, l'attitude du pape? C'est une attitude, en fait, assez jésuite. On pense qu'il est franciscain, mais... Mais non, c'est vrai qu'il y a un grand souci de la pauvreté, etc. Mais il suffit de rencontrer l'un ou l'autre jésuite dans son bureau, on se rend compte qu'un jésuite a aussi un sens très, très aigu de la simplicité et de la pauvreté. Non, c'est vraiment un fils de Saint Ignace. Et plus le temps se passe, plus je dis, mon Dieu, c'est vrai, un vrai Jésus. Bon. C'est une qualité. Et donc, il va lui-même beaucoup écouter et encourager l'expression et la confrontation de positions différentes. Comme dit le cardinal Schönborn, le pape nous a dit de parler avec franchise et d'écouter avec humilité. Il y a ces deux expressions, parler avec franchise, écouter avec humilité. Et donc, comme c'est un sujet important, ben il faut du temps, il faut 2 ans. Première fois qu'il y a un synode qui dure 2 ans. En impliquant à différents degrés un maximum de personnes. Alors il y a eu plein de débats. C'était pas entre droite et gauche, ancien et moderne, rigoriste et laxiste. Toutes ces catégories, on les a entendues. Malheureusement, la façon dont certains médias présentent le travail synodal, même dans la presse chrétienne, en s'inspirant des catégories sociopolitiques, ne sont pas adaptées ici. Nous ne sommes ni dans un parlement, ni dans une confrontation de partis politiques, même s'il y a des groupements avec des tendances, etc. D'accord ? Mais donc, c'est se priver d'une intelligence profonde de ce qui se passe que de tout catégoriser selon droite-gauche, rigoriste, laxiste, etc. C'est ancien moderne. Peut-être que ce qui peut nous le plus aider à comprendre, c'est le premier synode de Jérusalem où Pierre et Paul, tous cinq ils étaient, ils ont discuté vigoureusement. Vous voyez aussi les conciles des premiers siècles. Vous voyez aussi le Concile Vatican II, l'encens, etc. Mais quand vous connaissez les petites histoires du Concile Vatican II, vous vous dites, mais où est-ce qu'on se trouve, hein? Vous savez qu'ils allaient, ils allaient suivre le texte jusqu'à l'imprimeur pour éviter qu'on change une virgule. Hein? C'est ce qu'on nous a raconté. Et il y a eu des petits coups comme ça aussi pendant ce synode, hein, pour ne pas s'en inquiéter. Comme dit Pascal, ça c'est une de mes phrases préférées, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Hein? Ben, voilà. Dans le concile, il y a eu beaucoup d'hommerie aussi. Voilà. Et dans le synode aussi, il y a eu l'hommerie. Bon. On peut le regretter, on peut le tout ce que vous voulez. Voilà, c'est un fait. Et ensuite, donc, après avoir écouté, il faut continuer à prier, le moment pour le Saint-Père, avec ses collaborateurs, d'opérer ce qu'on appelle le discernement des esprits, selon son ministère pétrinien. Notez qu'une des choses qui a été difficile et difficilement ressentie dans différents coins du monde, que ce soit en Afrique, en Amérique du Nord, en Italie, dans certains pays, etc., c'est la mise entre parenthèses de tout l'enseignement de Jean-Paul II, le pape de la famille. On n'a pas compris. Mais on va comprendre avec cette façon de procéder. Le Saint-Père ne voulait pas commencer par l'exposition d'une anthropologie ou d'une doctrine déjà tenue. Il voulait écouter les gens. Okay. Ça reste une question, ça reste une certaine difficulté, mais on peut comprendre cette mise à l'écart, non pas théorique, hein, évidemment. Vous voyez bien que dans le document final, il y a une part qui venait à Jean-Paul II, mais pratiquement, il était peu lu, peu considéré. ce qui explique aussi, peut-être, que les questions liées à la sexualité n'ont pas été extrêmement approfondies. Alors, toujours dans le premier point sur la méthode, nous pouvons discerner deux approches qui ne se trouvent pas chimiquement pur, à l'état chimiquement pur dans le parmi les pères synodaux. Le premier mouvement, on pourrait dire, c'est de la doctrine à la pastorale. Et un deuxième mouvement, on pourrait dire, il y a des gens qui viennent plus de la pastorale et qui essayent de trouver dans la doctrine des lumières à leur pastorale. Vous voyez, donc, il y a des gens qui ont une foi réfléchis, etc., et qui après essayent de développer des programmes pastoraux en fonction de cela, et puis d'autres qui, vous voyez, ce sont des tempéraments qui sont différents en fonction des différentes formations. Mais fondamentalement, entre pastoral et doctrine, il n'y a pas d'opposition. Il y a une tension constitutive et féconde. Comme le dit le cardinal Müller, qui est préfet pour la congrégation pour la doctrine de la foi, il n'y a pas de différence fondamentale à établir entre doctrine et pastorale. Nous ne sommes pas sauvés par une théorie, mais nous participons à une grâce, à la vie de Dieu. Je continue à le citer. En fait, on ne peut pas dire que Jésus-Christ aurait apporté une doctrine hors de portée, un idéal qui serait sans lien avec la vie, qu'il nous faudrait corriger, perfectionner Jésus-Christ parce qu'il aurait vécu dans un monde idéaliste, qui n'était pas un homme pratique. Jésus n'est pas un théologien académique qui n'aurait rien su de la vie réelle. D'accord ? Et c'est déjà une description du théologien académique qui n'est pas très sympathique. Bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a eu tout un débat, je pourrais en parler longuement, sur la question de mais est-ce que l'Église ne propose pas un idéal inaccessible ? Vous voyez, il y a eu ce débat là. Le cardinal Schönborn écrit ceci: entre pastorale et doctrine, il n'y a pas de différence, mais une complémentarité. La doctrine est la boussole, la doctrine est avant tout la doctrine de Jésus. Fondamentalement, il ne peut pas y avoir d'opposition. En fait, il ne peut pas y avoir d'opposition entre amour et vérité. Comme dit le psaume, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Le problème n'est pas ce que le Christ enseigne, mais ce que nous ne pouvons pas faire. Et c'est pas parce que nous n'y arrivons pas, nous, à certains moments, à accomplir ce que Christ enseigne, que pour autant, ce qu'il enseigne n'est pas juste. Et il n'est pas effectivement praticable. Il doit être rejeté dans l'horizon idéal, dans l'horizon idéaliste, hein, une sorte d'utopie chrétienne. Pour certains théologiens catholiques suivent vraiment la voie de l'idéal, hein, enfin, veulent vraiment distinguer le réel de l'idéal. Mais ce n'est pas très, me semble-t-il, évangélique. Le Christ présente des idéaux à vivre qui sont réalisables, pas à peindre. En d'autres termes, la norme sociologique n'est pas la norme évangélique. Le Christ n'était pas un démagogue qui voulait plaire à tout le monde, il appelait à la conversion. L'évangile de Saint-Marc commençait par là: convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Pour tout homme, il y a des changements possibles. En tant que jésuite, donc, le pape, c'est très ignatien de discerner en partant de la situation réelle et non de chercher à appliquer une doctrine d'en haut. Vous voyez, c'est un peu le. Lui, on pourrait dire qu'il a ce souci-là. Donc, ça, c'est la première chose, c'est la question de la méthode. Deuxième point, l'amplitude des thèmes abordés. Eh bien, je vais le passer. Parce que sinon, je ne vais pas arriver au divorce. Mais vous avez vu avec les différents éléments que j'ai donnés qu'il y a des tas de questions qui sont essentielles. Hein. Je vais en donner l'un ou l'autre. Mais par exemple, le fait que beaucoup de jeunes ne s'engagent pas dans le mariage religieux. C'est une question immense. En Afrique, en Amérique du Sud et en Asie, mais aussi en Occident, les questions les plus inquiétantes sont liées au concubinage adolescent qui se prolonge avant d'aboutir à des séparations. Une forme d'immaturité affective perdure sans que des personnes ne sachent. et aider ces personnes à avancer, ces jeunes à avancer. La polygamie, de fait ou indirecte. Les femmes abandonnées avec leurs enfants, vivant souvent dans la précarité. Les filles en Asie, et ailleurs enlevées dans certains pays en direction de la Chine, qui est en manque de femmes à cause d'une politique de l'enfant unique. Et surtout, la question de l'avortement des filles. les violences conjugales et les maltraitances, les agressions sexuelles de toutes sortes, contre les femmes, contre les enfants aussi. Près de 80% des agressions sexuelles pour les enfants ont lieu dans la famille et dans le silence toujours oppressant. Les familles dispersées par les guerres, les drames humanitaires, la question du chômage, les familles touchées par le chômage, c'est quelque chose aussi. Le drame des familles touchées par le chômage. La question du dialogue intergénérationnel et l'accompagnement des personnes âgées. La question de l'éducation des enfants dans des sociétés où l'absence de père et la dévalorisation du père est fréquente. La question de l'initiation et l'éducation chrétienne des enfants à la vie spirituelle. Le divorce et ses graves répercussions sur les adultes et les enfants. L'immaturité qui préside parfois au désir d'enfant, etc., etc. Enfin, bref. Question des gestations pour autrui. On va me dire que ça, c'est encore une question qui est très petite, mais qui commence à se développer de façon extraordinaire et qui ne doit pas être vue uniquement d'un point de vue anthropologique, mais aussi d'un point de vue d'une nouvelle forme d'exploitation, d'esclavagisme. Mais celle-là, à un niveau de radicalité qu'on n'a jamais connu dans l'histoire de l'humanité. Encore que, souvenez-vous d'Abraham et d'Agar. Enfin, une autre question est souvent abordée, est celle, et pour moi ça c'est le point le principal, que je vais développer, annoncer dans mon point suivant, les effets des concepts du genre dans sa version queer, celle qui nie la différence sexuelle au bénéfice d'une forme d'égalitarisme des sexes entre tous les types de sexualité, relayée notamment par le mouvement LGTB. Qui confisque d'ailleurs l'identité homosexuelle à sa perspective relativement, à sa perspective qui est la sienne. Quoi. Toutes les personnes homosexuelles ne se retrouvent absolument pas dans ce mouvement. Donc, comme vous voyez, la question des personnes divorcées, remariées n'est pas la plus importante. Ce serait une façon de réduire le travail du synode en le détournant de sa trajectoire. De même en est-il pour les questions des personnes homosexuelles. Comme le dit le pape François, ce dont il est question, ce sont dans le synode, sont ces familles qui ont une fille ou un fils homosexuel, et de savoir comment aller de l'avant dans cette situation un peu inhabituelle. Je cite, hein, et surtout comment nous devons trouver un moyen d'aider ces familles. En fait, la question de l'homosexualité comme telle n'est pas une question qui est liée à celle de la famille. La question des unions de personnes de même sexe, même si on les appelle des mariages, ça n'a rien à voir avec la famille et le mariage, tel que l'Église pense et l'annonce depuis 2000 ans. D'accord ? Donc c'est une question qui doit être et qui a déjà d'ailleurs d'être traitée dans d'autres lieux. Un autre synode sur cette question-là, mais ce n'est pas une question qui est comme telle liée à la famille. Oui. Le fait que deux personnes de même sexe forment un duo, une association qui vivent sous le même toit, qui vivent une certaine amitié, une certaine tendresse ou que sais-je, un certain amour, et même si on leur donne accès à une certaine adoption, entre guillemets, d'enfants, c'est une autre réalité que celle d'une famille, même si on utilise aujourd'hui beaucoup le mot de famille pour ce type d'association. Et donc, comme tel, le synode n'a pas voulu traiter de cette question-là, avec beaucoup de sagesse, me semble-t-il, dans ce cadre. Alors, le point, je vois que je n'ai plus que 10 minutes, le point qui me semble essentiel, mais je l'aborderai du coup au prochain cours, c'est que l'enjeu de la famille aujourd'hui n'est pas uniquement pastoral, mais qu'il est d'ordre anthropologique. En effet, nous vivons dans un univers où ont émergé une nouvelle anthropologie ultra-libérale et libertaire avec des aspects marxistes. Et qui donc ont trouvé dans dans une certaine conception. Il y a plusieurs conceptions du gender, mais dans le gender, son expression, son porte-drapeau, si vous voulez. Voilà. Avec la création d'un néo-langage, etc., etc. Donc, personnellement, mais j'y reviendrai donc au cours prochain. Pour moi, ça c'est un des enjeux, pas uniquement pour moi, pour une série de personnes, c'est un des enjeux majeurs de la famille aujourd'hui. Ce sont des enjeux anthropologiques. Dont on sous-estime très profondément, pour l'instant encore, toutes les répercussions. Alors, quatrième point sur lequel je vais aller vite aussi, c'est la préparation au mariage. Toutes ces questions, oui, tout le chapitre, toute la deuxième partie du document final y est consacrée, ne doit pas nous faire perdre de vue que le mariage est une réalité qui est belle et profondément joyeuse, à laquelle il faudrait mieux se préparer. Il convient de regarder la famille de façon positive, d'abord et avant tout, et le synode réaffirme la beauté du mariage et de la famille, vécue concrètement par tant et tant et tant de couples et de familles. D'où l'importance donc de la préparation au mariage. Dans un avion qui le ramenait des États-Unis, le pape François disait: on prépare un prêtre pendant 8 ans, il est marié 4 petits soirs. Je trouve ça génial, moi, comme expression. On prépare un prêtre pendant 8 ans, il est marié 4 petits soirs. Et il ajoutait: ça ne va pas. Donc il convient de développer une nouvelle forme de catéchuménat, etc., de chemin, pour former les jeunes couples dont beaucoup de fiancés ont vécu dans une culture vraiment païenne, avec des mœurs païennes, et des marqueurs. Donc c'est pas simplement des idées païennes, mais des comportements, des psychologies païennes. Dans un relativisme éthique, avec peu de culture du don et des structures humaines parfois peu suffisantes. Personnellement, je voudrais aborder la question mais ça je vais le faire dans le cours, pas le prochain mais après, des enfants et du divorce. Et quand on vient de familles dont les parents ont divorcé, ben voilà comment fonder son propre couple. Et donc il y a une série de défis nouveaux qui se pose lorsque on a vécu cette situation dans sa propre famille. Et donc, préparer en 4 soirées ne permet pas le cheminement nécessaire à tous les niveaux. Surtout que dans les 4 soirées, il y a souvent une ou deux qui est consacrée au choix des textes. Mais c'est important aussi, on a beaucoup parlé de divorcés et mariés, mais quelle est notre propre responsabilité dans les divorces, nous qui ne préparons pas suffisamment au mariage? Quand je dis nous, je parle de moi. Alors, les personnes divorcées remariées civilement en 5 minutes. C'est un immense débat. Je me concentre sur le document final. 7 points. À aucun moment, la doctrine de l'indissolubilité du mariage n'a été remise en question. Mais, comme dit le cardinal 23, l'Église n'a pas pouvoir là-dessus. L'Église n'est pas toute puissante, le pape n'est pas tout puissant. Si un mariage a été célébré validement, le pape, tout pape qu'il est, ne peut pas dire mais non, je dissous ce mariage. Non, c'est pas possible. C'est impossible. Le pape n'a pas ce pouvoir-là. Il faut qu'on sorte de l'idée d'une église toute puissante. Non, à partir du moment où deux personnes se sont données l'un à l'autre, etc., etc., en toute conscience que tous les les éléments étaient présents. Il n'y a pas de pouvoir de l'Église là-dessus. C'est, en théologie, on dit que c'est une institution divine. Le Jean-Paul II disait en l'an 2000, dans une allocution à la Rote, le pouvoir romain pontife, le pouvoir du romain pontife, on parle comme en anglais, le pouvoir du romain pontife, enfin du pontife romain, n'atteint pas les mariages conclus et consommés. Ce fait émerge très clairement. Le magistère de l'Église l'enseigne comme une doctrine à laquelle il faut s'y tenir définitivement, même si celle-ci n'a pas été déclarée d'une façon solennelle à travers l'acte définitoire. Deuxièmement, dans le numéro 82, le document final du Concile rappelle l'existence des récents motus proprio pour, qui facilitent les déclarations de nullité du mariage, qui invitent les diocèses à les mettre en œuvre. Donc une déclaration de nullité du mariage ne consiste pas à annuler un mariage. Elle consiste simplement à dire oui, les conditions n'étaient pas remplies il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans, pour vous dire que ce mariage a été conclu validement. C'est ça que ça veut dire. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le mot nullité, hein, parce que pastoralement, je trouve que c'est un mot très malheureux, mais c'est un mot qui doit être pris au niveau canonique. Parce que pour les enfants, après, qui se disent bah, si le mariage de mes parents était nul, mais moi je suis super nul. Vous voyez ce que je dis, hein? Non, mais c'est vrai. Quand je dis ça, c'est. Donc je pense qu'il faut trouver d'autres. Et il y en a d'autres terminologies. Ça, c'est la terminologie canonique. Troisièmement, le mot-clé, c'est celui de intégration. Le Saint-Père, enfin, pardon, les pères conciliaires, les pères synodaux, invitent à une meilleure intégration dans la communauté chrétienne selon diverses modalités des personnes qui sont divorcées et qui ont contracté une nouvelle union civile. On ne peut pas contracter une nouvelle union religieuse, c'est impossible. Le remariage est toujours d'ordre civil. Ils appartiennent au corps du Christ, qui est l'Église, ils doivent pouvoir en avoir une joyeuse et féconde expérience. Ce sont des frères et des sœurs dans lesquels l'Esprit-Saint a déversé des dons et des charismes pour tous. Alors, la nouveauté n'est pas tellement dans le fait qu'ils sont des frères et sœurs, hein, c'est clair, hein, mais dans le souci de comment mieux les intégrer. Comment mieux les intégrer? Notamment dans la participation aux divers services ecclésiaux. Pose la question, le synode pose la question des différents modes d'intégration. Il y aurait peut-être la permission de devenir parrain, de faire de la catéchèse, de lire les textes à la messe. Bref, de participer à des actes qui préparent à la vie sacramentelle. Le texte cite aussi un dépassement des exclusions dans les domaines liturgiques, éducatifs et pastoral. Je ne sais pas ce qu'il dit par là, mais c'est un immense domaine. Et même institutionnel. Un mot très vague, hein. Est-ce que cela voudrait dire qu'on pourrait avoir un diacre divorcé remarié, hein, si on parle d'un dépassement, hein. En tout cas, le texte ne dit pas cela, évidemment, hein, mais en tout cas, vous voyez que le mot institutionnel peut aller jusque-là, dans son extension. Mais ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, le texte ne va pas dans ça, mais lui, de parler de dépassement institutionnel, des exclusions dans le domaine institutionnel, voilà, c'est un aspect un peu vague. Cinquième point, ou quatrième point si vous voulez, comme ça, ça va aller plus vite. Une invitation à effectuer un chemin de discernement accompagné par des prêtres. J'ajouterais, j'ai lu que des prêtres, mais j'ajouterais avec des laïcs aussi compétents. Ça, c'est bon. De telle manière qu'ils puissent à un certain moment faire un examen de conscience. Se mettre devant Dieu. Certains imaginent même des parcours pénitentiels. Le texte parle de moments de réflexion et de chemin pénitentiel. Personnellement, permettez-moi une petite critique. toutes les personnes qui sont divorcées mariés civilement ne sont, enfin, ne sont pas nécessairement dans une dynamique de pénitence. Pourquoi ? Parce que on peut, pour des raisons psychologiques, la relation conjugale a eu du mal à se constituer, donc on est dans un autre domaine que la pénitence, ou bien que je pense à cette femme abandonnée, etc. Donc le mot pénitence ne convient pas nécessairement à ces femmes ou ces hommes. Mais bon, laissons ça de côté. Voilà, le document fait référence à Jean-Paul II et aux critères de familiaris consortio pour ce parcours en conscience à l'aide d'un prêtre. Voilà. Vous m'accordez encore 5 minutes ? Oui, ça va ? Merci. À aucun moment, notez-le bien, le texte n'évoque même l'hypothèse que ce discernement prépare à la réception des sacrements, soit de l'Eucharistie, soit de la réconciliation. Il ne l'évoque pas. Ceci étant dit, il donne une place, et j'y viendrai dans mon point juste après, immense à la conscience. Enfin, dernier point, j'ai un peu résumé les choses, le texte final envisage que soient traités par les conférences des évêques de chaque pays ou de chaque ère culturelle les problèmes posés par la situation des divorcés remariés. Alors, je voudrais... Terminé, avant ma conclusion, dire que à travers toutes ces questions, dans ces numéros qui sont essentiellement les numéros 83, 84, 82 aussi, dire que il faudrait les étudier pour eux-mêmes, il y aurait moyen de travailler ces numéros et faire plusieurs conférences sur ces numéros-là. Donc ici, je vous donne un point. Mais je voudrais vous signaler que derrière cela, il y a des questions beaucoup plus fondamentales qui sont en jeu. D'abord, des questions de morale fondamentale. À savoir, quel est le lien entre la conscience subjective et l'enseignement de l'Église ? C'est un problème qui était très fort débattu ces 40 dernières années, spécialement sous Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI, et qui ont trouvé une solution très claire. Et là, on a l'impression que c'est comme si on revenait un peu, on reposait le problème, vous voyez ? On reposait la question du lien entre conscience et enseignement de l'Église. Donc, un des sujets d'étude qu'il faudrait faire, c'est le lien entre la grande encyclique, qui est celle du Concile Vatican II. Vatican II ne s'est pas engagé énormément dans le domaine éthique. Il a dit « je ne suis pas prêt ». Et donc, c'est bien plus tard qu'il y a eu la grande encyclique du Concile, « Veritatis Splendor ». Il n'y a pas de contradiction, évidemment, entre la relation finale du synode et Veritatis Splendor. Seulement, il faut reconnaître qu'il y a un accent très très différent qui crée une certaine ambiguïté. Faisant part à tout un courant dans l'Église qui dont un discernement avait été posé il y a quelques années. Voilà. Deuxièmement, quand vous entendrez les commentaires, vous, peut-être que vous entendrez cela. Enfin, la conscience est libre, etc. Pas du tout cela. Hein. Mais il y a on pose l'accent très fortement sur la conscience subjective dans ces trois numéros. Voilà. Et donc se pose la question Donc formellement, il n'y a aucun problème avec de cohérence avec Reality Splendor, mais se pose quand même la question comment articuler les deux. Il y a un travail à faire de ce point de vue-là. Deuxièmement, il y a des questions ecclésiologiques qui sont là derrière aussi, notamment avec la question du statut des conférences épiscopales. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Vous allez voir dans les mois qui viennent, il y a toute la question de la décentralisation de l'Église, etc. Bon. Mais comment penser une décentralisation qui respecte la nature profonde de l'Église, qui est une nature de communion, sans tomber dans une politisation et une application de modèles sociologiques à une réalité théologique? Je pourrais développer ça longuement, mais je, personnellement, moi, c'est un des sujets qui me semble, avec la question de la morale fondamentale, très, très important à bien voir. L'évêque d'Anvers, qui a été, Mgr Bonny, qui a été là-bas, a une position très, très forte dans ce domaine. Bon. Le cardinal Müller a dû, au cours de ce synode, pas pendant les débats, encore que je ne sais pas, mais. Remettre les pendules à l'heure de ce point de vue-là. Disons une conférence épiscopale, je peux vous citer ses propos exactement. Non, c'est trop tard. Alors, troisièmement, il y a aussi la question de la pastorale, profondément. Qu'est-ce que c'est qu'une pastorale de proximité qui ne soit pas une pastorale de séduction, qui ne soit pas une pastorale de démagogie, mais qui soit une réelle pastorale ou avec là derrière, quelle conception a-t-on de la miséricorde? Est-ce que la miséricorde est réductible au concept sociologique de tolérance? On sent bien que non, hein. Mais voilà, il y a cette question-là qui est présente, et quelle est la part de l'enseignement magistériel dans la pastorale? Vous voyez, ça, c'est quelque chose qui est magistériel à travers les différentes médiations, hein. Il ne s'agit pas de prendre. Alors voilà, je voudrais simplement terminer pour ce parcours avec les bottes du petit Pousset, hein, bottes de 7 lieues, en disant ceci, c'est que voilà, le souci du pape et à travers ce synode a été celui d'une église douce et miséricordieuse, proche de ceux qui souffrent, disponible à ceux qui sont dans les difficultés. Elle propose beaucoup de sujets de réflexion, mais il me semble que nous sommes vraiment qu'au début de ces réflexions. Et les deux fois prochaines, je vais donc prendre un peu de distance par rapport à ma méthode habituelle de la famille dans la Bible, mais je vais m'arrêter à deux questions que je vais scruter plus à fond, à savoir la question non pas des personnes divorcés comme tels, mais des enfants qui vivent dans des familles divorcées. Alors, on a divorcé, c'est un fait, mais comment faire de façon assez pratique. Et ça c'est la fois d'après. La fois d'avant, je reprends. La fois prochaine, je traiterai de l'enjeu qui me semble capital aujourd'hui pour la famille, à savoir les enjeux anthropologiques. Je reprendrai mon point 3. Hein. Et la fois d'après, je traiterai donc d'une autre question spéciale, qui est celle des enfants et le divorce. Voilà, je vous remercie pour votre patience et pardon pour ces 7 minutes dépassées.